voir en essayant d'entrer dans la métaphysique, en essayant de comprendre la personne dans cette lumière de la métaphysique, je crois que nous répondons parfaitement au désir que le pape a toujours exprimé, et encore dans les derniers écrits, que nous ne pouvions pas faire de la théologie sans avoir une métaphysique de l'être. Et ça a été quand même un des points, au point de vue intellectuel, que le Saint-Père a toujours affirmé. Il en a même fait une encyclique. Et je crois, une encyclique qui, parmi les autres encycliques du Saint-Père sur le rôle de saint Thomas, a quelque chose de très spécial. Parce qu'il montre que sans la métaphysique de l'être, c'est impossible. Et vous comprenez pourquoi on obéit au Saint-Père par amour pour lui, c'est sûr, parce que nous sommes catholiques. Saint-Père étant le représentant du Christ pour nous. Mais il faut comprendre pour obéir d'une façon plus parfaite, le pourquoi. La connaissance de foi est divine. Elle n'a pas un mode humain. Elle est divine. Donc, dès ici-bas, en croyant, nous nous mettons à l'école du Saint-Esprit, directement. Qu'on ne s'en aperçoive pas beaucoup, j'ai beaucoup de croyants qui sont à l'école du Saint-Esprit, parce que quand on est à l'école du Saint-Esprit, on doit devenir intelligent, parce que ça ne peut pas être plus élevé. Être à l'école du Saint-Esprit. Mais c'est un fait, c'est une réalité. Par la foi, vous êtes enseigné par l'Esprit-Saint. Vous êtes sous l'emprise de l'Esprit-Saint. Cette connaissance est divine. Elle atteint Dieu. Directement, sous un mode très particulier, sous le mode de l'obéissance, sous le mode de la confiance, sous le mode de celui qui tend vers la vision béatifique. Un jour, nous verrons face à face. Chaque fois que vous faites un acte de foi, vous devez vous dire ça. Un jour, je verrai face à face. Surtout quand votre acte de foi est plus difficile. Puisque la foi a un mode divin, une relation directe avec Dieu, qu'elle est surnaturelle. La foi est surnaturelle, elle n'est pas naturelle, elle est au-dessus de la nature, elle dépasse, elle est divine. Par le fait même tout ce qui garde un mode humain est soumis à la foi. Puisque tout ce qui est humain est soumis à Dieu, à la lumière divine. Et je ne peux lier, subordonner directement à la lumière de foi que ce qui est capable d'atteindre Dieu. Tout ce qui est humain est créé. Est limité. Alors vous voyez, lier la foi à la métaphysique, la métaphysique est une connaissance qui peut atteindre Dieu, qui peut saisir le divin comme transcendant. La foi, par le fait même, n'est pas amoindrie, n'est pas diminuée quand elle se sert d'une connaissance humaine qui est capable d'atteindre Dieu. Toute connaissance qui garde un mode humain limite ma connaissance de foi. Ça, il faut que ce soit pour vous une évidence. Si ça n'est pas une évidence, il faut que vous ayez le courage de préciser pourquoi pour vous ce n'est pas une évidence. Comment ça se fait ? C'est pas une évidence pour vous. Il y a quelque chose qui vous choque. Ça, c'est très utile. Si vous ne le faites pas aux études, vous ne le ferez jamais dans votre vie. Et là, par le fait même, vous serez un mauvais catholique. Quelqu'un qui, toute sa vie, reste enseigné et enseignable, ça peut, on peut l'excuser. Mais pour quelqu'un qui doit enseigner, ça, on ne peut pas l'accepter. Il faut qu'il comprenne ça. C'est très important que si on reçoit la parole de Dieu, qui vient directement de Dieu, avec une intelligence qui garde son mode humain, jalousement, on diminue le sens de la parole de Dieu. Pour ne pas diminuer le sens de la parole de Dieu, il faut se servir d'une intelligence humaine qui comprend la dignité. Les anciens disaient la dignité divine de l'intelligence. Je mets divine parce que pour nous le divin est surnaturel. Là, c'était le divin naturel. Parce qu'il y a un divin naturel pour nous. Mon intelligence est faite naturellement pour Dieu. Ça, il faut en être convaincu. Tant qu'on n'en est pas convaincu, il faut travailler pour purifier notre intelligence arriver à comprendre comment notre intelligence est faite pour Dieu. Notre intelligence n'est pas faite pour faire de la soupe. Mon intelligence n'est pas faite pour être cuisinier. Mon intelligence n'est pas faite pour être charpentier. On doit s'en servir si Dieu nous demande d'être charpentier. On doit réaliser ça pour la communauté humaine. Mais c'est pour la communauté humaine. Ce n'est pas directement pour Dieu. Mon intelligence, si je ne fais pas grande attention, reste naturellement liée à mes sensations. Naturellement liée à mes sensations, à mes images, à mes sensations des cinq sens. Mais mon intelligence est capable de dépasser ce mode sensible, ce mode imaginatif, pour découvrir quelque chose qui n'est plus lié à l'humain, quelque chose qui peut être divin. Et qui peut, par le fait même, venir enrichir dans l'extension mon acte de foi. Et faire que mon acte de foi reste divin. Tandis que s'il n'y a pas cette métaphysique de l'être, mon intelligence gardera toujours un mode humain et elle ramènera la parole divine à une parole humaine. Mode humain. Par le fait même, je ne serai plus en théologie. Je ne serai plus capable de recevoir la parole de Dieu comme parole de Dieu. Ça, c'est capital. Hein. J'allais dire, c'est ce que le Saint-Père n'a cessé de répéter. Et il est tenu à cœur, puisque, encore dans ses derniers écrits, il le dit. Et il le dit avec force. Il en était convaincu. Et il voyait bien que c'était cela qu'il fallait rappeler tout le temps, aux théologiens, aux chrétiens, étant donné le poids extraordinairement fort d'une connaissance humaine quant à sa manière d'atteindre les choses, de garder le mode humain, donc le mode limité, et ne plus respecter ce qu'il y a de divin dans la parole de Dieu. Quand Dieu se sert de la parole humaine, cette parole humaine est divine. Comment cette parole humaine est-elle divine ? C'est important. Est-ce que pour être divine, la parole humaine doit perdre sa signification propre? Est-ce qu'il faut détruire la signification propre de la parole humaine pour que cette parole puisse être utilisée par le croyant. Ou au contraire, la foi à cette puissance divine de faire que mon intelligence puisse coopérer directement avec l'Esprit Saint, avec le Verbe péché. Oui, c'est une question qui est fondamentale. Et il faut la reprendre souvent, parce que elle n'est pas commode dans le contexte humain actuel. Dans le contexte humain actuel, on fait de la philosophie humaine et on reste volontairement dans un point de vue humain. La philosophie ne doit pas quitter l'humain. La philosophie ne peut pas s'élever jusqu'à Dieu. Elle reste dans un contexte humain. La phénoménologie. Puisque la phénoménologie étudie ce qui est transformé par la connaissance humaine. Ce qui est assimilé par la connaissance humaine. Donc le mode humain est présent, et essentiellement présent. C'est pour ça qu'on aime tellement la fumerie, parce qu'on se sent chez soi. Tandis qu'en métaphysique, on ne se sent plus chez soi. On est délogé. C'est jamais agréable d'être délogé. Quand on est jeune, on arrive assez facilement à accepter d'être délogé parce qu'on arrivera à être logé autre part. Mais quand on vieillit, être délogé, alors on n'a plus qu'une seule situation, être sur la route. Voir les gens passer et soi-même est toujours à côté. La théologie actuelle qui refuse la métaphysique, qui ne la regarde plus, ne s'en sert plus, on se sert de connaissances humaines. Et en se servant de connaissances humaines, on diminue ce qu'on appelle la théologie. On rend la théologie humaine. On regarde dans la parole de Dieu ce qu'il y a d'humain. Comment la parole de Dieu me montre la liberté de l'homme, me montre la capacité de l'homme à pour aimer, la capacité de l'homme à pour penser. Mais on ne s'élève pas jusqu'à Dieu. Et je crois que le Saint-Père, pendant toute sa vie, a eu le souci de maintenir cela extrêmement nettement. Et c'est pour ça que, de fait, il tenait tellement à une métaphysique de l'être. Chaque fois que je le voyais, il me disait toujours avec une netteté très grande. « Père Philippe, où en est la métaphysique ?»« Où en est la métaphysique ?»« pour me rappeler tout le temps que c'était cela qu'il fallait qu'on sauvegarde dans l'Église. Parce que si on lâche la métaphysique, il n'y a plus de théologie. Il y aura des spiritualités. Mais il n'y aura plus de théologie. Et c'est quand même très important de comprendre cela. Qu'il nous ait demandé, et le Saint-Père le demandait de façon très nette, il nous ait demandé de maintenir aujourd'hui, dans le climat actuel, cette recherche métaphysique pour maintenir la théologie. C'est sûr, ce n'est pas pour maintenir la métaphysique pour elle toute seule. C'est pour que cette métaphysique soit au service du croyant. Je crois qu'en étant fidèle à cette recherche métaphysique, dans toute sa force, dans toute son originalité, nous obéissons à ce que notre pape réclamait avec tant de force, tant de netteté. Et ce n'est pas pour rien qu'il le faisait, parce qu'il voyait le danger qu'il y avait de l'oublier. Ça, il sentait très très fort, le danger de l'oublier, de croire qu'on peut faire une théologie sans philosophie, que la théologie va engendrer une philosophie. C'était le danger de la scolastique, que la théologie engendre une philosophie. Alors, s'il n'y a pas de philosophie avant, la théologie n'engendre pas de philosophie. La théologie reçoit la parole de Dieu. Et là, comme s'il n'y a pas de philosophie, elle prendra le langage habituel de l'homme. Les recherches scientifiques de l'homme, ce qui a le plus poussé dans les connaissances humaines, mais non pas les connaissances de l'être par rapport à l'être, par rapport aux transcendantaux. Je crois qu'il faut être très conscient de cela. Première des choses, de comprendre pourquoi ça. C'est très bien d'obéir, mais pour nous, ce n'est pas suffisant. C'est le point de départ. Pourquoi le Saint-Père réclame-t-il ça? Il réclame ça pour que la théologie ne diminue pas. Très intelligente peut-être de l'homme, mais parole humaine. Donc il y a là une exigence très très fondamentale. Je crois que le gros problème du Saint-Père, il avait bien saisi, que le gros problème actuel, c'est de voir comment une métaphysique peut étudier ce qu'est la personne. Étant donné que nous sommes en présence de deux moments extrêmement importants de la philosophie. La découverte de la métaphysique en Grèce avec Aristote. La découverte de ce que représente la connaissance humaine dans tous les pays d'Europe et après en Amérique, qui alors, si tu restes intéressant à noter tout de suite, que si la métaphysique étudie en premier lieu l'homme, la métaphysique par elle-même et en elle-même prendra des modalités différentes. La manière de Descartes, avant Descartes, de la manière dont Occam a joué ce tournant, la manière dont Descartes voit le point de vue « je suis », la manière en Angleterre, la manière en Allemagne, comment la métaphysique de l'être a été remplacée par la connaissance humaine, selon des modalités différentes. Au fond, la métaphysique, dans son développement tel qu'on le voit en Europe, tel qu'on le voit dans l'Inde, elle a d'abord regardé l'être, et ensuite le problème de la personne a pris toute la place. Ce n'est plus l'être qui était premier, c'était la personne. Ceci à partir de Occam, à partir de Descartes, à partir des philosophes anglais, à partir de Kant. C'est très très curieux que ça a pris des modalités différentes avec France, Angleterre, Allemagne. Alors que l'être était au-dessus de ces différences. La philosophie de l'être est la même en Espagne, en France, en Allemagne. La philosophie de l'être. Parce que l'être est saisi de la même façon pour un Anglais que pour un Français, que pour un Allemand. La philosophie de l'être, mais la philosophie de nous, de notre pensée, est différente. Il y a une variété. Parce que le mode humain est présent, et que ce mode humain, de fait, prend tout de suite une très grande diversité. C'est vrai que d'une certaine façon, cette philosophie de l'homme, de la connaissance humaine, a quelque chose de commun chez tous ces pays, mais elle ne peut pas s'isoler, se séparer de ce qu'il y a de propre pour l'Allemagne, l'Angleterre, la France. Alors que la métaphysique est au-dessus. Parce que justement, la connaissance de l'être éveille notre intelligence à un niveau ayant une profondeur unique. Je crois que c'est très important pour nous de bien saisir ça, vous voyez. S'il y a des objections, écrivez-les. Je vous ai toujours dit ça. Vos objections, ne contentez-vous pas de les garder dans votre imagination. Parce que toute objection est imaginaire. Elle est imaginaire. C'est l'imagination qui me cache la vérité. Alors, pour percer le nuage, c'est utile de l'écrire. En l'écrivant, vous pouvez petit à petit le dépasser. Tandis que si vous restez toujours en disant « Oui, ça existe, une objection », sans vouloir regarder cette objection en face, vous restez avec cette objection. Et cette objection risque imaginativement de tout prendre. Et enfin, c'est ce qui est arrivé. C'est qu'une philosophie de l'homme est très vite tombée. Objectif. Et cette philosophie de l'homme, de la connaissance humaine, est devenue une philosophie, une métaphysique spéciale en Angleterre, en Allemagne, en France. Et il faut, et aujourd'hui aux États-Unis, qui n'est pas la même que celle de l'Angleterre, son caractère propre, son mode propre. Alors, c'est très important de saisir ces modalités particulières. Et pour bien les saisir, il faut les noter. Il faut essayer de préciser ça. Et comprendre comment la théologie, quand elle se fait à partir d'une philosophie qui n'est plus une philosophie de l'être, est une théologie qui devient avec un mode humain. Et ce mode humain prend des variétés, que ce soit anglais, allemand, français, espagnol. Il faut essayer, de temps en temps, de faire le point critique. Est-ce que mon intelligence arrive actuellement à comprendre que l'être, elle est faite pour le connaître. Mais connaître l'être pour mon intelligence, c'est nécessairement quitter le mode humain pour saisir ce qu'il y a de propre à la connaissance spirituelle. Dépassement de l'intelligence pour atteindre ce qui est le plus important, le plus significatif. Et ça, c'est très important. Alors, le problème pour nous, c'est de voir comment la métaphysique de l'être a son mot à dire pour la philosophie de la personne. Une philosophie de la personne est nécessairement une métaphysique de l'être. Seule, autrement dit, seule une métaphysique de l'être peut nous donner une vraie philosophie de la personne. C'est le second point, ça. Et qui est très actuel. La philosophie de la personne a voulu se développer indépendamment de la philosophie de l'être, par la psychologie, par une réflexion critique et par le fait même qu'elle ne peut pas me dire ce qu'il y a de tout à fait propre à la connaissance de la personne. Première raison, l'être que j'atteins, que je connais dans mon jugement d'existence, ceci est, a de fait une modalité très spéciale parce qu'elle est immanente et non plus extrinsèque. Dans la connaissance humaine, la connaissance métaphysique humaine. Je connais mon moi. Moi, je suis. Donc, l'être a cet habit, cette redingote spécial. D'être saisi de l'intérieur. La métaphysique affirme ceci est, et ceci est aussi bien intérieur que extérieur, il est au-dessus. Tandis que la philosophie du moi est une philosophie de mon intériorité. Elle a donc une séduction très spéciale. La séduction de l'être mien, mon être, est pour moi beaucoup plus séduisant que l'être du voisin. Ça aussi, il faut le réaliser. Notre moi, la connaissance de notre moi, c'est très séduisant. On y revient tout le temps. Parce que cette connaissance du moi, elle est très riche. Elle regarde toutes mes connaissances. Ce sont mes connaissances. Elles viennent de moi. L'immanence est première. Et je reste dans cette immanence. Le moi. Mienne de mon moi n'existe que dans la mesure où je connais, que dans la mesure où j'aime. Et je vois tout de suite deux perspectives très différentes dans cette immanence l'immanence de la connaissance, l'immanence de l'amour. Et c'est vrai, mon moi, c'est ce qui me permet d'aimer. Et je le cherche chez mon voisin. Je vois par le fait même que cette connaissance a un attrait et une séduction très grande, c'est que la saisie de l'être à partir de moi est beaucoup plus riche que la saisie de l'être à partir du jugement tout simplement d'existence. Ce jugement d'existence, c'est terrible, il unifie tout, tous les êtres existent. Alors, il gagne en extension, mais en compénétration, ils deviennent de plus en plus faibles. Il y a une séduction très particulière de la connaissance immanente, de cette connaissance première de moi. Et cette séduction fait que la connaissance de moi passe avant la pauvreté de ma connaissance de l'être. C'est extrêmement intéressant de regarder l'histoire de la philosophie selon cet équilibre. Jugement d'existence, ceci est, je suis. Je suis, jugement d'existence. Vous voyez, au fond, toute philosophie dépendra de l'ordre que vous mettez entre le « ceci est » et je suis. Je suis et ceci est. C'est cet ordre initial qui est capital. Parce qu'il faut reconnaître que l'affirmation « je suis » a une séduction bien plus profonde que l'affirmation « ceci est ». Ceci est, il y a ce fait que tout est. Donc toute originalité disparaît pour saisir quelque chose de plus profond, de commun à tout ce qui est. Tandis qu'au contraire, dans l'affirmation « je suis », c'est mon originalité qui est première. Et cette originalité qui est première me permet de connaître tous les autres, mais toujours en dépendance de moi. C'est, je crois, très important pour nous de saisir ces deux manières tout à fait différentes dans un développement philosophique, où ceci est commande toute ma philosophie, où je suis commande toute ma philosophie. Alors vous voyez tout de suite, quand on dit « ceci est », c'est ce qui est plus pauvre, mais c'est ce qui peut aller le plus loin. Parce que s'il existe un être premier, mon jugement d'existence est alors pleinement réalisé en lui. Et donc, toute ma philosophie tend vers la connaissance de Dieu. Alors que si ma philosophie s'enferme dans mon je suis peut avoir une très grande richesse vis-à-vis des autres, mais le je suis ne contient pas l'affirmation de l'être premier. Si l'être premier existe, mon je suis est une attente. Mais mon je suis doit accepter une pauvreté pour affirmer l'existence d'un autre qui dépasse mon je suis. Alors que tous les autres sont relatifs à mon je suis. C'est très important de noter une vue critique, la différence de l'affirmation « il y a un être premier, l'être premier existe » dans une philosophie de l'être ou dans une philosophie du moi. Dans une philosophie de l'être, ceci est, c'est l'existence qui se trouve réalisée parfaitement, l'être qui se trouve réalisé parfaitement dans le premier. Dans une philosophie du « je suis », pose la possibilité d'affirmer qu'il existe un être premier, mais cet être premier m'échappe complètement, parce que son caractère propre, c'est d'être au-dessus de tout. Et lui, dans une immanence parfaite, je saisis l'autre absolu, négativement. La négation est première. Et je ne peux affirmer l'existence de cet être premier d'une façon négative. Il n'est pas contenu dans mon être. L'être de Dieu me contient, mais moi je ne contiens pas l'être premier. L'être premier contient mon être, mais mon être ne contient pas. Il saisit l'être premier comme celui qui est totalement indépendant de moi, transcendant. Au fond, c'est le passage de la transcendance. Autrement dit, puis-je, par l'immanence, atteindre la transcendance, ou au contraire, je dois atteindre la transcendance au-delà de moi, donc de l'immanence, comme ce qui est totalement différent. connaissance, immanence, transcendance. Et c'est vrai, ce sont ces deux philosophies que je constate, des philosophies qui cherchent avant tout, en premier lieu, l'immanence, et une philosophie qui cherche l'autre en premier lieu pour mieux découvrir ce qu'est l'immanence. Au fond, il n'y a que deux types de philosophie. Celle qui met en premier lieu ma connaissance, moi-même, je me connais, je suis, et celle qui reconnaît que le je suis ne se réalise parfaitement que dans l'être premier. Ces deux grandes affirmations, et ces deux grandes affirmations supportent de fait deux types de philosophie. Une philosophie qui dit l'être premier, je ne peux pas le connaître. Il existe, mais je ne peux pas le connaître. Alors au bout d'un certain temps, étant donné que la connaissance est immanente, puisque je ne peux pas le connaître, je dis il n'existe pas. C'est la conséquence immédiate. Je ne peux pas garder quelque chose que je ne connais pas. C'est trop lourd. Affirmer une existence de Dieu qui m'échappe complètement, c'est trop lourd pour l'intelligence humaine. Et donc, au bout d'un certain temps, elle veut se décharger de ce poids et ne fait que uniquement se regarder. Je crois ça très important pour nous de voir que, de fait, ces deux aspects de la métaphysique, chercher l'être comme être, ces diverses causes, causes formelles, causes finales, et essayer de saisir comment en moi cet être se trouve réalisé de la manière la plus parfaite dans la personne. Parce que la saisie de l'être, ça m'intéresse dans la mesure où elle me permet de mieux me connaître.